Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute!
Merci à tous d'être venus. Merci aussi d'avoir passé du temps pour la préparation de cette table ronde. On a un peu préparé quand même, on n'improvise pas. Les thématiques de Toulouse XR portent sur des sujets divers et variés. On en a plusieurs variantes. On a fait des sujets techniques. On a fait des sujets sur l'éthique dans les métaverses, etc. Il y a avec Jérôme Béranger et Laurent Chrétien. Cette année, on a voulu commencer par un vieux sujet dans le domaine des virtuels, des réalités virtuelles et augmentées, qui est l'industrie. Alors, pourquoi l'industrie? Parce que bon, c'est un sujet qui est assez banal, somme toute, on connaît bien. Tout est parti de l'idée que d'un constat. Ça fait aujourd'hui, à peu près, 10 ans que la VR s'est installée dans le monde industriel, voire plus en termes d'innovation, bien évidemment, mais en termes d'usage, en tout cas. Moi, j'ai commencé mes premiers projets en SS2I aux alentours de 2013. Je me souviens très bien que c'était un peu du POC, à l'époque. Mais aujourd'hui, 10 ans après, je me suis dit, on s'est dit, tous, où est-ce qu'on en est, finalement? Par rapport à deux facteurs, le premier, qui est un facteur sur les usages, et puis aussi le facteur du marché, tout simplement, de cette utilisation, etc. Donc cette table ronde va la faire en trois parties. Il y a trois grandes thématiques qu'on va développer. La première, on va parler justement de ces fameux usages aujourd'hui. Comment utilisez-vous les technologies virtuelles? Et puis la deuxième partie, on va essayer de faire un peu de prospective. Les quatre experts qui sont là auront certainement quelque chose à dire, et pas forcément la même chose. Et puis on terminera par le sujet polémique du moment, c'est le casque d'Apple. C'est parti, vous allez commencer par vous présenter.
Oui, bonjour, donc je suis Frédéric Etcheverry, je travaille pour ma part chez Mazer Engineering. Et chez Mazer Engineering, la réalité virtuelle, on l'opère en contexte de formation professionnelle et formation à des métiers en manque d'attractivité. Donc ça va être des outils de formation, d'évaluation et d'attractivité pour capter des soit des recrutements, soit des élèves.
Donc bonjour à tous, moi c'est Rudy Morin, je suis responsable du pôle immersion chez Talent. J'ai fait mon doctorat il y a maintenant une bonne dizaine d'années, en 2011, ça remonte, je suis très jeune, sur les IHM et plus particulièrement sur les espaces et les environnements 3D, les interactions dans les environnements 3D.
Antoine Genet, je suis responsable d'affaires à Exent XR. Exent, c'est une grosse ETI industrielle, on a un énorme bureau d'études mécaniques. Et Exent XR, on est le petit service qui se développe en ce moment et nous réalisons des applications en réalité mixte, réalité virtuelle et de la vidéo 3D à destination de l'industrie. Donc formation, revue de conception, marketing.
Alors Rodolphe Asséré, je travaille chez Soprasteria, une SN, on est 55 000 je crois en ce moment. Ça monte tout le temps. Et je m'occupe d'une équipe d'une dizaine de personnes sur la 3D. Et on va faire tout ce qui est autour de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, peu importe, sur tous les moteurs possibles pour différents clients et différents besoins. On en prendra peut-être certains pendant la discussion. En ce moment, je travaille pour la SNCF sur une histoire de scanner des nuages de points pour les transformer en quelque chose. On pourra peut-être en parler. On travaille pour vraiment beaucoup de clients, c'est surtout les grands comptes prenez à peu près tous les groupes du CAC 40 et ce sont nos clients. Donc c'est vraiment généralement de gros gros projets.
Alors oui, justement en fait tu as lancé le débat. Moi j'aimerais que en fait, je vais vous demander un peu de décliner les projets justement sur lesquels vous avez travaillé récemment pour que les interlocuteurs qui sont là aient une forme de cartographie un petit peu de vos activités. Et puis, encore une fois, l'objectif, c'est de se dire, dans l'industrie en ce moment, ils utilisent ça, ils font ça, et ils font ça pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est d'essayer d'expliquer à l'audience quelle est la carte d'identité de l'industrie, de vos usages dans le domaine industriel. Est-ce que, Frédéric a parlé de la formation, mais en termes d'innovation, par exemple, est-ce que vous faites des choses intéressantes? En termes de POC, pourquoi pas, on en fait toujours. Ou alors même en termes de déploiement, tout simplement, sur des projets qui sont plus ou moins pérennes ou qui utilisent des process ou des technologies qui ont déjà été éprouvées il y a quelques années. L'objectif, c'est de comprendre où on en est aujourd'hui Est-ce que la réalité virtuelle a encore, réalité mixte, a encore une utilité? Est-ce qu'on est dans un système où on est aussi, on va dire, dans l'appétence dans laquelle on était il y a 5-6 ans, hein, c'était un peu le cas. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ?
Oui, je pense que c'est une question intéressante dans le sens où aujourd'hui, et je ne sais pas si mes confrères ont pu faire le même constat, il y a une maturité chez nos clients et chez les gros industriels, mais de manière générale, à la fois chez les industriels, chez les clients, mais aussi chez les utilisateurs, directement chez les métiers qui vont utiliser ces outils-là, une maturité à la fois tant sur le champ des possibles, la valeur ajoutée et les usages qui vont être permis par ces technologies-là. Pendant, tu l'as dit, hein, depuis une dizaine d'années, on a pu assister à un ensemble de POC, un ensemble d'innovations autour de ces technologies-là. On a testé ces technologies-là dans les métiers avec des résultats plus ou moins positifs d'ailleurs. Et aujourd'hui, il me semble qu'on sait assez bien sur toute la chaîne de production qu'on va retrouver et qui est très souvent similaire chez l'ensemble de nos industriels, de nos clients, de la conception à la production, à la IT, en passant par la maintenance, voilà, tous ces métiers-là qui à un moment vont avoir testé et vont aujourd'hui savoir quels sont les retours d'expérience intéressants et les ROI intéressants qui vont pouvoir émerger. Donc ça, c'est le premier constat. Pour ma part, on a pu avoir des exemples assez clairs sur la partie conception, notamment dans le domaine du spatial, puisque là, on est sur des cycles de vie assez longs. Hein. Ça peut être une dizaine d'années, ça peut être plus, où on va avoir besoin à la fois d'avoir des outils de modélisation 3D, de simulation 3D, et on va vouloir répéter à travers des scénarios. On va pouvoir visualiser comment le prédimensionnement, par exemple, pour voir si la construction même du satellite ou sa maintenance ou la maintenance d'un système va pouvoir se faire correctement. On va vouloir simuler des rendez-vous de satellites dans l'espace. On va pouvoir, et que ce soit à travers de la réalité virtuelle, que ce soit à travers de la réalité augmentée, on va utiliser ces outils-là pour aider à construire un système, le maintenir, le superviser. Donc voilà, c'est une palette très large aujourd'hui d'usages qui s'est créée. Et très spécifique aussi.
Merci.
Pour rajouter par rapport à tout ça, la réalité virtuelle, je suis ton avis, la réalité virtuelle il y a 5 ans, c'était quelque chose qui était très exotique pour tout le monde. Et Excent, nous, quand on a commencé à se lancer là-dedans, on allait sur des salons avec à l'époque, c'était les vieux Oculus. Donc, je vous laisse imaginer l'Alienware de 10 kilos. Plus l'Oculus, plus les deux base stations dans l'avion, c'était un plaisir. On allait là-bas et donc du coup on installait ça sur le stand. Les gens venaient tester, ils disaient oh c'est sympa, c'est beau, on arrive à voir des choses. Mais voilà, c'est un argument marketing et ça allait pas plus loin. Et petit à petit, on a commencé à travailler donc notamment avec notre bureau d'études. Et aujourd'hui, on va utiliser la réalité virtuelle, notamment dans des applications j'en parlais juste avant, de la revue de conception. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, avant de venir assembler une machine spécifique ou spéciale pour un client, de venir avec un casque en VR et de faire toute une revue de conception, donc avec des tests d'ergonomie, des tests d'accessibilité, pour vérifier que tout est correct avec l'outillage avant de le lancer en assemblage. Et ça permet de déverminer tout le projet avant qu'on arrive au bout, qu'on le livre et qu'on se dise bon bah en fait là il y a un souci, va falloir refaire, parce que ça forcément ça engendre des coûts supplémentaires. Et donc tout ce process, ça s'est pas fait en un jour, hein. Il a fallu ces 5 années pour le développer, mais aujourd'hui il existe des outils qui permettent de le faire relativement facilement. Nous on utilise, on est partenaire avec Skyril, qui est une entité parisienne je crois, qui propose ce genre de software. Et donc voilà, basiquement, pour vous dire comment ça fonctionne, on prend un modèle 3D Catia, on le met dedans, et ensuite on peut venir s'immerger dans la solution en VR, placer des mannequins, regarder, faire des tests roulards, enfin, ce genre de choses. Donc voilà, aujourd'hui, oui, ça a pris un gros step-up, oui, par rapport à il y a quelques années.
Avec une acculturation des clients et des prescripteurs qui permet justement d'être plus fluide dans la demande, l'offre, la demande, etc. C'est la communication est plus fluide.
Pour citer un nom, on a fait ce genre de test pour Alstom assez récemment.
D'accord.
justement par rapport à ce que vous dites, ils sont tellement acculturés que parfois les clients viennent nous voir en disant « je veux faire un truc en VR ». Enfin, attends, on va reprendre le sujet au départ, on va regarder si la VR répond bien à ton besoin, parce que si c'est pour lire de la doc, on s'en fiche de le faire en VR, hein, tu vas te casser les yeux. Donc, ils sont tellement acculturés que parfois ils arrivent par le prisme de la techno que par le plutôt que par le prisme du besoin. Donc c'est vrai, parfois, il faut un peu les détendre. Et là aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, bon, il ne faut pas qu'on soit d'accord tout le temps, mais, tant que c'est virtuel, tant que c'est modélisé, tant qu'on le teste, on va dire, sur des outils numériques, c'est beaucoup moins cher. Et les industriels, ils vont rechercher deux choses, un gain de temps et des économies. Donc, tout le temps, avant c'était que sur des outils de 3D sans forcément avoir la VR. Maintenant, on commence à avoir une maturité de matériel, une acculturation, et ça fait quelques années, donc c'est sûr et certain que il y a des choses à faire. On a aussi un gros job, nous, de notre côté, de continuer à les acculturer sur les possibilités de tout ce que l'on peut faire avec ces outils-là, parce qu'ils en ont pas forcément 100% conscience, et c'est vraiment tout le début du job. Et voilà. Et pour prendre un exemple, nous, on a un sujet, alors c'est pas de la VR, c'est de la réalité augmentée. On a un sujet récent où vous allez avoir un dispositif de réalité augmentée. Et là, c'est très métier, et c'est pour accompagner dans le métier, c'est pas dans la formation. Je fais exprès de pas prendre trop d'exemples formation, parce qu'on en a quelques-uns aussi. Vous imaginez que vous êtes sur un terrain militaire et vous devez faire la maintenance des antennes. Et pour maintenir ces antennes, il faut faire gaffe sur la distance à laquelle vous êtes de l'antenne, parce que vous pouvez vous faire griller, un peu comme dans un micro-ondes. Et pour savoir à quelle distance il faut s'approcher et mettre des équipements spécifiques, à date, ils avaient un papier et une sphère autour de l'antenne à partir de laquelle il fallait s'équiper. Et avec la réalité augmentée, on peut faire une sphère tout bêtement virtuelle de l'endroit à partir duquel il y a un warning qui se lève, et ils peuvent visualiser que là, il faut mettre un équipement spécifique. C'est un des dizaines d'exemples sur lesquels on pourra parler, mais voilà, un autre et un deuxième exemple. Là, c'est plus un POC fun pour bien se faire plaisir qu'on avait présenté à la VR Jam. On a fait en réalité virtuelle, on avait remodélisé le Quai des Savoirs et on avait modélisé un humain avec quelques photographies. Ça s'appelle un MetaHuman. Vous pouvez faire ça sur Unreal facilement, sur d'autres outils facilement. On prend quelques photos de quelqu'un autour de lui. On arrive sans trop d'efforts à en avoir un modèle 3D. On l'a connecté. Alors, j'ouvre pas le chapitre IA parce que sinon, on va en faire la nuit. On l'a connecté à ChatGPT. Et vous pouviez parler en réalité virtuelle avec un avatar qui vous ressemble carrément sur une discussion naturelle, moyennant quelques secondes entre votre question et la réponse de la personne. Là, c'était fun. Mais en tout cas, ça ouvre de bonnes perspectives.
On va quand même aborder un petit peu le sujet de l'IA, de toute façon, parce que bon, il y a des connexions possibles. Alors, tu as dit un truc, vous êtes tous d'accord, mais justement, il faut un peu de poil à gratter dans cette discussion. Alors, ma question va être très simple pour toi, Frédéric. Vous avez fait de la réalité virtuelle dans la formation. On parle beaucoup de la réalité virtuelle en formation. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent que la réalité virtuelle en formation, c'est une valeur ajoutée, je dirais, plus du tout contestable aujourd'hui, etc. Dans les faits, est-ce que c'est vraiment le cas chez vous, ou même, enfin, je veux dire, vous êtes quand même assez représentatif de ce qu'on fait en termes de formation dans le domaine industriel. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que ça monte en flèche, etc. Ou alors, est-ce que on est parvenu à des choses différentes?
Si. Alors c'est le cas effectivement chez les industriels, hein, qui ont mis en place des VR rooms. Donc il y en a chez Airbus dans les nouvelles FAL 321. On en a chez Teregan où on fait de la formation sur du. Et ils sont distributeurs de gaz. Ils font des formations de mise en sécurité d'un poste de livraison, des choses comme ça, des choses un peu risquées, ou dans le nucléaire. Voilà, les industriels. Voilà, on va dire qu'ils sont matures là-dessus. Les centres de formation, donc les CFAI, AFPI, enfin pour l'UIMM en tout cas, mais ça c'est vrai pour la plasturgie. Tous les métiers, on va dire, c'est pas péjoratif, mais col bleu plutôt, s'y intéressent fortement, parce que bon, on va pouvoir s'entraîner à faire des procédures sans aucun risque technique, je vais dire. Pour autant, les publics ne sont pas matures là-dessus. Donc, ils se sont équipés. Ils ont tous des super salles. Enfin, voilà. Ils ont investi beaucoup. Ça a profité à beaucoup de fournisseurs par Midi-Pyrénées, malheureusement. Mais bon, on sait qui. Pour autant, il n'y a pas de contenu à l'intérieur, parce que les publics ne sont pas vraiment matures. On va dire qu'un casque de réalité virtuelle, c'est quand même fragile. Donc, aujourd'hui, on revient quand même. Et puis, le Covid a aussi vachement participé à ça. C'est tout ce qui va être développé sur casque virtuel pour les organismes de formation, ça va être plutôt pour l'attractivité des métiers. Et on revient plutôt sur des fondamentaux. On va développer de la réalité virtuelle, mais ça va être sur PC classique. Enfin, on va rendre le module interactif en 3D, mais sur un écran, sur un PC classique, quoi. Avec une bonne carte graphique peut-être, mais c'est moins vrai aujourd'hui quand même.
Ouais. Mais c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, là on revient à un débat un peu différent, c'est autour de l'utilisateur et de l'ergonomie du casque virtuel.
Oui, mais c'est pas que l'utilisateur, c'est aussi les gens qui opèrent autour. Parce qu'il faut être quand même conscient qu'un formateur, il faut déjà qu'il adhère au projet de digitalisation. Aujourd'hui, c'est un public qui est quand même qui est pas forcément mature. Il y en a qui sont en avance, mais il y en a qui sont très rétifs au sujet.
C'est vrai que il y a beaucoup de sociétés qui font du développement de contenu pour les formations et qui se spécialisent de plus en plus. D'ailleurs, il y en a pas mal en Occitanie et qui doivent déployer des efforts complémentaires assez importants pour acculturer l'ensemble de la chaîne des décideurs, des formateurs. Et j'ai commencé à voir moi des sociétés de formation qui sont spécialisées pour jouer cet intermédiaire entre le développeur de logiciels et le centre de formation. C'est-à-dire qu'ils forment des formateurs à aimer à faire de la VR, en fait. En quelque sorte.
Ça.
Donc on rentre en effet sur quelque chose qui devient assez complexe à mettre en œuvre. Et si c'est pas mis en œuvre, en effet, moi j'ai déjà vu des centres de formation qui mettaient le casque.
Ça reste au placard. Oui.
Voilà,
ça reste au placard.
Tout à fait. Oui.
Oui, et puis comme tu dis, effectivement, c'est du temps, ça peut coûter cher, et jusqu'à présent, l'activité d'autoring de développement, de production de ces outils-là était très silotée, d'une part parce que on avait des applications VR avec des usages VR, on avait des applications de réalité augmentée pour des usages de réalité augmentée. Comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, il y a aussi un continuum de part et d'autre. Il y a la réalité et la virtualité, et il y a tout ce qu'on va trouver en chemin. Et il va falloir adapter les outils aussi aux besoins. C'est pas la technologie qui doit venir s'imposer d'elle-même. Elle offre un champ des possibles, mais il va falloir bien entendu l'adapter à l'utilisateur, aux besoins. Voilà. Et pour revenir sur ce silotage, on est en train de le voir disparaître progressivement. Notamment parce que les casques permettent de plus en plus effectivement d'avoir alors ce qu'on appelle du CIFRU, en tout cas de passer d'un mode de réalité augmentée à un mode de réalité virtuelle. On a de plus en plus cette ouverture-là, notamment nous on a un projet actuellement chez Liber qui autour d'un même environnement de production 3D, donc réduction des coûts, et on va réutiliser les mêmes environnements, on va être capable de jouer ces expériences-là aussi bien dans un environnement complètement construit en VR, mais on va être capable aussi de les jouer en réalité augmentée, dans l'espace même du site in situ. Et ça va avoir un intérêt important, notamment en termes de disponibilité de la machine, en termes d'accessibilité, en termes de sécurité. Donc voilà, ça ouvre des champs des possibles. Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Et puis le second sur lequel je voulais réagir, qui était très intéressant, c'est que oui, aujourd'hui, on a cette difficulté de laisser nos clients créer du contenu. Pour eux, que ce soit la captation, que ce soit la création des environnements, c'est quelque chose qui nécessite d'être spécialiste de la modélisation, de la transformation de points, de nuages de points en mèches, de texturing, d'animation, d'éclairage. Enfin, c'est un ensemble de métiers. On voit apparaître de plus en plus, et ça sera peut-être l'objet de questions à venir, mais on voit de plus en plus d'outils, notamment grâce à l'IA. Mais on voit aujourd'hui des choses qui sont très optimistes et qui nous laissent penser qu'on va pouvoir simplifier de plus en plus et accélérer et diminuer les coûts de production de ces environnements.
Oui. Et quand on construit des parcours de formation, c'est généralement pas une seule formation unitaire isolée du reste. C'est vraiment des parcours entiers de formation pour faire acquérir des compétences entières. Donc qu'il n'y a pas forcément toutes les modalités pédagogiques qui ont besoin de se faire en VR. Quand on veut apprendre quelque chose, parfois il y a des outils type storyline, etc., qui permettent de faire des sortes de diapositives animées qui font le job pour beaucoup de cas. La VR, pour nous, ça doit être, dans vraiment tout ce qui est formation, ça doit répondre peut-être à grand max 10% des usages. Un usage, par exemple, pour lequel la VR est indispensable et qu'on n'apprend pas sur un PPT, si je puis dire ça. Par exemple, la riposte armée, pour savoir quand est-ce qu'on doit sortir une arme, faire des sommations, etc., etc. C'est pas mal de s'entraîner en VR avec un pistolet en plastique pour s'entraîner à différents use cases dans des salles particulières. Là, c'est adapté. C'est un peu plus compliqué sur un papier. Par contre, pour apprendre les techniques de, j'en sais rien moi, de savoir comment on fait quand on arrête quelqu'un pour lui présenter, lui demander de présenter ses papiers, on peut faire ça avec un QCM ou avec des drag and drop qu'on met dans un certain ordre et une petite coche verte pour dire ok, c'est cool, tu l'as bien fait. En fait, ça dépend, c'est toujours pareil, c'est très besoin en fait. Et la modalité pédago, VR, n'est pas du tout pour nous, en tout cas pour nos grands clients industriels, la majorité des choses que l'on fait.
Oui, vous conviendrez tous qu'on reste sur une technologie de niche, un marché de niche, et un marché qui, somme toute, a une certaine fragilité en termes économiques aussi. Notamment, je vous donne mon point de vue. Moi, je dois pas participer, mais tant pis. Mais je trouve que le marché de la VR aujourd'hui souffre un petit peu, justement, des problématiques d'usage, des problématiques d'ergonomie, et aussi d'un manque d'évolution disruptive. Alors, on parlera après de ça en détail, mais il y a aussi ça qui manque. Et le fait que la VR n'est toujours pas encore, entre guillemets, touché le grand public, est un des signes que la technologie va rester encore cantonnée à des usages B2B, je dirais industriels, POC, innovation, etc.
Par rapport à ce que tu dis, j'avais le point que... On parle beaucoup de réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est en train de changer un petit peu. Il y a eu le Quest 3 qui est sorti, qui a un Sifu qui est, pour le prix, on peut se le dire, franchement pas mal, qui permet du coup de faire de la réalité mixte. Et du coup, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est plus aussi seul qu'on le pensait dans le casque. C'était un des gros problèmes qu'on avait avec la VR, c'est on mettait le casque sur le nez des gens, ils regardaient à gauche, à droite, ils ne nous voyaient plus. Donc, ils étaient dans leur monde, donc ils se sentaient très seuls. Nous, on était là en train d'essayer de leur donner des consignes par rapport à l'écran qui était à côté, qui retransmettait en direct ce qu'ils voyaient. Et aujourd'hui, ça, je dis pas que ça a déjà changé, ça a commencé à changer, mais en tout cas, ça va changer. Parce que oui, la réalité mixte, c'est quelque chose de tout nouveau, et pour le coup, c'est quelque chose de disruptif, et ça va rebattre les cartes pas mal, à mon sens.
Oui, non, mais bon, je pense que tout le monde est tout à fait, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, bon, voilà, on est dans le mouvement, en fait, on est dans le changement, ça, ouais. Dans le mouvement, et on n'a pas, enfin, il faut qu'on voit un petit peu quel recul on va avoir là-dessus. Alors, on va en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Je voulais aborder un dernier point avant d'aborder la deuxième thématique sur l'aspect un peu plus prospectif, parce qu'on aura peut-être moins de choses à dire. On parlait de l'IA tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'IA. Enfin, il y a d'autres technologies qui sont des add-ons, des technologies satellites qu'on va mixer interconnecté avec les technologies immersives. Est-ce que pour l'audience, vous pouvez donner quelques exemples qui vous viennent à l'esprit sur une utilisation un peu mixte entre une technologie immersive type VR, XR et l'IA, ça peut être aussi... On le voit, pour vous c'est tout à fait normal, mais pour le commun des mortels qui a joué sur un Quest, l'idée que le Quest puisse être connecté en permanence avec une plateforme, avec des serveurs, avec toute une architecture qu'il y a derrière qui permette de traiter des datas, d'analyser ces datas, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples ? Et j'aimerais aussi dans vos exemples que vous donniez votre point de vue, parce que c'est un sujet qui revient souvent, c'est sur l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire l'aspect protection des données. C'est une thématique qu'on a beaucoup abordée l'année dernière, mais elle demeure un vrai problème. Et justement, c'est de l'argumentation pour le débat de la fin, mais est-ce que vous pouvez donner quelques exemples comme ça, qu'on ait aussi toujours une vision un peu de ce que vous faites, entre guillemets?
Je vais essayer de faire court, et si vous avez des questions pour creuser les sujets, vraiment avec plaisir pour en parler après. Alors, pour moi, là, je vais juste m'engager tout seul, la VR ou la XR, c'est ni plus ni moins que un front-end parmi d'autres, c'est-à-dire une partie visualisation comme d'autres, et on peut y accoler plein de technologies derrière, en back qui tournent, qui font du job, etc. Deux exemples pour nous. Pour nos clients, ce qui est le plus important, c'est justement la sécurité de la donnée. C'est ce qu'on appelle avoir des données on-premise, c'est-à-dire directement dans les systèmes d'information du client. On ne va pas s'amuser à caler un chat GPT qui va tout mettre sur des serveurs aux US, rendu public à tout le monde, et si on tape les bons prompts. Hors de question. Donc, l'enjeu depuis toujours, c'est de faire des choses qui soient disponibles pour nos clients. Ce qui est déjà le cas depuis des années et des années, c'est tout ce qui va être les clouds intégrés directement dans les systèmes d'information de nos clients. Le sujet de l'IA se pose exactement la même question. Il y a une puissance incroyable de choses que l'on peut faire si on les fait bien avec l'IA. Il y a plein de sujets écologiques et tout ça, et pareil, avec plaisir pour en parler après. Comment on fait, parce qu'ils sont demandeurs, pour intégrer des LLM on-premise directement chez nos clients. Pour le coup, on travaille dessus. Il y a pas mal de solutions sur le marché. Vous regarderez, vous tapez les mots-clés Mistral AI, etc. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur le sujet. On peut déjà avoir des IA top qui tournent sur des Mac du commerce et qui font vraiment le job sur des sujets spécialisés et même sur les langages type la langue française. Donc, voilà, pour nous, on en est là, en tout cas en ce moment, c'est de... on fait des Lego en fait, hein. C'est juste qu'il y a des nouveaux Lego, on a le nouveau pack Lego 2024 qui est sorti, il s'appelle IA, mais on essaie de voir comment on peut le faire tourner derrière pour améliorer notre petit château qui était déjà de plein de Lego. Voilà.
Ouais, et puis sans rentrer effectivement trop dans le détail technique, mais l'IA et les LLM, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant, mais on a tout l'environnement aussi d'IA qui va être sur la partie multimodale des IA, qui va permettre en plus d'avoir la connaissance du langage, d'avoir la capacité de vision, et de voir ce que l'on voit à travers le casque, de comprendre l'environnement, de segmenter l'environnement, de comprendre l'environnement que l'on voit, d'être capable d'agir sur cet environnement-là. Et puis, toutes les IA de type génération de modèles 3D. Donc, on parlait tout à l'heure de problèmes et de difficultés à créer des environnements, le coût que ça peut représenter. Aujourd'hui, de la même manière qu'on peut générer du texte avec un prompt, on peut générer des modèles 3D avec un prompt, on peut générer des textures avec un prompt, on peut, voilà. Et ça, c'est assez jeune comme technologie, mais ça va tellement vite qu'on le voit déjà d'ailleurs dans le domaine du jeu vidéo, effectivement, des usages qui commencent et il faut être capable d'anticiper ces technologies-là et de voir comment elles vont pouvoir nous aider ou aider nos clients à créer ces environnements et
Ouais. Sur la question sur ce qu'a dit Rodolphe, je sais aussi qu'il y a pas mal de labs qui intègrent justement ces briques, hein, sous la forme d'API ou autre, ou LLM, dans leur projet. L'IA générative, j'ai pas encore entendu parler. On a vu pléthore de tests, de machins, de types qui font leur truc dans leur coin et qui communiquent beaucoup là-dessus, bien évidemment. Mais on n'a pas encore vu je parle de l'IA générative exprès, hein, parce que j'ai vu pas mal d'exemples. Mais l'IA générative, on n'a pas encore vu d'intégration dans des projets industriels, par exemple. Moi, j'ai pas entendu parler de ça, hein, du tout. C'est beaucoup trop tôt, en effet.
Ouais, et puis surtout, s'il y en a qui le font, ils vont pas le dire.
Non. oui, non, mais bien sûr. C'est comme le mail que t'envoies à ton client, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas encore, on n'a pas encore trouvé d'utilité véritablement à l'IA génératif. On connaît le potentiel, mais on n'a pas passé la première.
On a quand même, pour le coup, avec beaucoup de clients différents, pas mal de use cases sur lesquels l'IA générative a une énorme valeur ajoutée. Mais pour rendre un projet, nous on dit rendre un projet sec, c'est-à-dire bien avoir tout bordé, que tout soit OK et être sûr qu'il ne va pas y avoir des dérives, des biais dans le modèle entraîné, que le dataset va être assez complet, etc. Il va falloir un peu de temps. Mais en tout cas, on explore déjà, par contre, c'est plus côté use case client, c'est plus du, des IA de type texte to texte. On prompte et on a une interface textuelle qui va nous générer du texte. Les use cases sont surtout dans de la recherche de documentation. Enfin, vous avez un cahier des charges de 10 000 pages, fais-moi un résumé, c'est le rêve absolu, avec la petite voix qui vous lit le truc en plus. Et en 2 minutes, vous avez le résumé des 5 000 pages. Mais on n'est pas encore sec sur le sujet. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, les use case interne client, ils y sont.
Ouais.
Bon, du coup, ça reste hors XR, tout ça.
Complètement.
Peut-être qu'un jour, ça y sera, mais c'est vrai que pour le moment, on n'y est pas. Pour rebondir là-dessus, c'est pareil. Nous, on est en train de réfléchir à mettre en place des copilotes qui viennent piquer dans toutes les bases de données qu'on a possibles et imaginables pour de la recherche d'infos.
Oui, c'est ça. Mais on est sur la classification, l'identification, etc.
C'est vrai que sur la XR, je pense que la plupart d'entre nous ont vu le je crois que c'était sur le LinkedIn de Nicolas Perrier aujourd'hui, sur le basiquement, on donne une image à manger à une IA, elle le transforme en modèle 3D. On l'a testé chez nous. Ouais.
Oui.
On n'y est pas encore. Il y a un début de quelque chose.
Il y a un début de quelque chose.
Il faut le temps que ça se lance. Et quand ce sera lancé, mais bon, ok. Nicolas, mais là, pour le moment,
Nicolas,
c'est vraiment
il fait du marketing,
les prémices.
Je voulais vous poser la question pour qu'on ait aussi une réponse de votre part. Oui, bien sûr.
Une dernière phrase pour compléter. Par contre, côté formation, on étudie beaucoup comment gagner du temps, notamment d'un point de vue accessibilité et tout ça, pour générer des sous-titres par rapport à des images. Mais c'est plus pour la conception de formation. Voilà.
Oui, tout à fait. Voilà, donc c'était le dernier sujet abordé sur une sorte de photographie. Bon, si sur ce sujet-là, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou plus tard. Le deuxième sujet que je voulais aborder, alors là, c'est gratuit, hein, c'est un sujet un peu open, mais quand même, je voulais avoir votre avis et puis peut-être l'avis de la salle sur les perspectives d'avenir. Pourquoi ? Les perspectives d'avenir sur plusieurs plans. Le premier, c'est le dispositif, le casque. L'évolution du casque. Je fais cette table ronde aussi pour que chacun s'exprime librement, exprime son opinion, parce que alors là, les opinions, il y en a plein sur le sujet, et définisse lui-même aussi son champ perspectif. C'est-à-dire que tu peux aller très très loin, mais bon, là, on parle des 2 ans à venir, peut-être des 2 ans, 5 ans maximum. Donc, j'aimerais avoir un peu votre avis en tant qu'expert, encore une fois. Et puis aussi, j'aimerais qu'on parle de l'évolution logicielle. Voilà, les moteurs de rendu. Aujourd'hui, on en a 2. On a parlé du petit dernier là qui pousse un peu. Qu'en est-il ? Est-ce que vous l'utilisez, etc. Et puis tout simplement, ben on va ensuite glisser sur notre dernière partie là-dessus. Donc sur les casques, par exemple, sur les casques. Alors, on parle pas d'Apple, on le laisse de côté pour l'instant, mais sur l'évolution des casques MR, XR, est-ce qu'il y a, j'imagine que certains d'entre vous ont lu les nombreux articles du CES sur les nouveautés. Et qu'est-ce que ça vous inspire à vous ? Voilà. La question est simple. Pour ceux qui ont lu.
Ouais, alors moi je les ai pas lus ces articles, donc ça va être très vite fait. Nous on va rester sur des fondamentaux, on va pas révolutionner la chose. On s'appuie sur une architecture qui aujourd'hui est solide, qui est consolidée, qui est éprouvée. L'époque on les faisait il y a 7 ou 8 ans. Aujourd'hui on fait vraiment du développement pur et dur. On s'interface qu'avec Unity. Les casques, il y a encore beaucoup d'HTC Vive, on va dire. Le Quest beaucoup aussi. Et après, on va faire du développement plutôt sur PC classique, clavier souris. Formation. Voilà. Aujourd'hui, nos développements, il y a peut-être des clients qui vont nous demander plusieurs plateformes de diffusion, mais le noyau de développement central, il reste le même. Et on fait juste développer la navigation sur PC ou dans le casque, et ça va s'arrêter là. Et on va rester sur ce qu'on sait faire. Ce que je voulais dire, c'était surtout qu'aujourd'hui, il y a des devices pour diffuser le contenu, mais la valeur ajoutée, elle n'est pas sur le device, elle va être sur le développement pur et dur, sur l'équipe qui va développer. On est des éditeurs de contenu. On en parlait tout à l'heure à l'époque, 1, 2, 3 multimédia, et 1, 2, 3 multimédia était un éditeur de contenu. Et il allait chez tous les opérateurs téléphoniques à droite à gauche. Là, on est pareil. On fait du contenu et on peut adresser tous les casques qui existent sur le marché. Si demain, un client nouveau arrive et nous dit bah « Non, moi, j'ai un casque particulier. » Bon, bah, c'est le cas avec Varjo VR. On a un client dans le nucléaire qui utilise ça. Bon, ben voilà, on va faire les développements pour cette plateforme. On va rester avec Unity, etc. Voilà.
Par contre, du coup, non, en vrai, c'est une question par rapport à tout ça. Tu peux quand même faire évoluer ton cœur petit à petit et rajouter de nouvelles fonctionnalités.
Ah, mais bien sûr. Après, on a des briques applicatives. Mais comme je te dis, aujourd'hui, elles sont éprouvées. Donc, on va pas réinventer un système de téléportation qui marche très bien. Voilà. On en est là.
C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, vous, Mazer, vous travaillez, vous faites évoluer, on va dire, vos contenus et vos technologies à la demande du client, en quelque sorte.
Non. Non. D'accord. Ben non, parce que justement, c'est nous qui sommes force de proposition. Là, aujourd'hui, on a travaillé à l'AFPA, on travaille lui-même pour développer des activités de réalité virtuelle autour des métiers de la chaudronnerie. Donc, la chaudronnerie, s'il y a bien un métier qui a priori ne s'y prête pas à la réalité virtuelle, c'est la chaudronnerie. Et pour autant, on crée aujourd'hui des parcours qui sont hyper innovants et c'est nous qui avons été force de proposition, qui sommes allés voir le client, qui avons fait la proposition. Et
c'est vous qui avez proposé la VR.
Complètement.
D'accord. Nous, on travaille plus sur Unreal. Après, bon, ça revient un peu au même. On peut faire à peu près les mêmes choses sur Unreal ou sur Unity. En termes de nouveaux moteurs et de nouveaux casques qui sont en train de sortir, donc comme tu le disais, au CES, il y en a eu plein de nouveaux. On a vu, je crois que c'est Sony qui a sorti le bout de son nez. En mode, on est là aussi, nous. Donc ouais, forcément on a parlé Quest, on va parler Apple Vision Pro un petit peu plus tard, mais ce qu'on voit par rapport en tout cas aux casques qu'on avait avant, c'est que quoi qu'on dise, ils deviennent de moins en moins chers, avec Meta qui fait des casques à 500€. Bon, alors par contre, on parlait des données tout à l'heure, évitez de mettre moins de 1000€ dans un casque si vous voulez vraiment protéger vos données. D'habitude, ça aide pas trop. Donc Meta, ils font des casques beaucoup plus abordables, les casques sont aussi de plus en plus légers de qualité, la qualité est en train d'exploser aussi. Donc non, enfin, encore une fois, les prémices de la VR sont peut-être un peu longs parce que ça fait 5 ans qu'on en parle de tout ça, mais petit à petit ça avance et on va quelque part, on va continuer sur cette lancée-là et on va voir des casques de plus en plus légers qui vont sortir jusqu'à ce qu'on arrive aux lunettes, quoi. Et je pense que oui, en effet, la question qui vient sur Apple, elle ira dans ce sens-là aussi.
Oui. Oui, mais tu as raison. Et c'est vrai qu'on se rend compte, effectivement, du temps que ça peut prendre. Et pour une raison évidente, c'est que c'est un ensemble de technologies particulièrement complexes à mettre en œuvre pour faire de la réalité augmentée, pour faire de la réalité virtuelle. Que ce soit d'un point de vue matériel, on a des problématiques d'optique à résoudre, on a des problématiques de latence, on a des problématiques de qualité de rendu, on a des problématiques d'algorithmes de tracking pour bien reconnaître les interactions avec l'environnement. Et à chaque problème, eh bien, c'est de la recherche qui est derrière et c'est des investissements et un marché qui se construit aussi autour de ces enabling technology, en fait, des technos qui nous permettent, et nous on attend qu'on nous autorise à faire des choses qu'on voit arriver depuis longtemps, et voilà, et ça prend plus de temps peut-être que ce qu'on avait pu imaginer.
Oui, je pense que ouais. les stats, moi j'ai eu quelques expériences dans le montage de boîtes et des études de marché, j'en ai bouffé ces 5 dernières années quasiment tous les ans. Les statistiques de vente de casques, d'évolution de nos nombres d'utilisateurs sont toutes faussées. Elles sont toutes extrapolées chaque année et elles donnent des chiffres qui sont complètement qui correspondent pas du tout à la réalité. Et l'évolution est pas du tout exponentielle comme on le pense. On pense qu'elle est exponentielle, mais on ne connaît pas le moment où tout va exploser parce que on se base sur le modèle du développement mobile, smartphone, et on attend ce moment clé qui ferait que une adoption massive. Mais c'est vrai que j'ai commencé la table ronde par parler de ces fameux 10 années qui ont passé. Je pense que notre enthousiasme était largement plus fort il y a 10 ans sur l'évolution de la VR que qui pourrait l'être aujourd'hui. Sans tenir de discours pessimiste, bien sûr.
Je peux juste compléter sur la question d'avant. Pour faire un aparté technique, nous, on va être... Alors, Unity, Unreal et aussi Nvidia Omniverse, si vous en avez déjà entendu parler. Pour nous, en fait, ça dépend, là encore, des besoins du client et des briques technologiques qui sont les plus adaptées par rapport au moteur. Certains moteurs sont mieux pour certaines choses. Omniverse est parfait pour simuler des choses industrielles vraiment hyper précises à la mécanique des fluides près, etc. Et on utilise le moteur de rendu 3D vraiment dans sa fonction primaire de faire, comme je disais tout à l'heure, de la vue du front. Et après, derrière, tout ce qui va être règles métiers, etc., on va les avoir de notre côté, on ne va pas les faire sur le moteur. Et on va, pour les techniques, on va généralement faire des DLL qu'on peut tester unitairement, etc., etc. Et après, le moteur va juste être un rendu. Ce qui fait que si un jour, j'en sais rien, moi, désolé s'il y a des aficionados, mais Unity meurt, mais on récupère à peu près la DLL et on va retravailler toute la partie vue sur un autre moteur tiers. On s'est beaucoup posé la question justement la fin d'année dernière quand il y a eu les Unity drama de « Ok, si Unity meurt demain, quel est notre scénario catastrophe ?» Et on a beaucoup à faire sur le sujet. Et pour les devices, je te rejoins, j'utiliserai pas le mot-clé du Apple Vision, mais les devices s'améliorent et probable que, tel qu'il soit, que ce soit le Vision Pro ou pas, un game changer fasse qu'il y ait une adoption massive qui marche d'ici quelques années. Et pour le marché, nous, de cette année, d'un point de vue Indus, on est ISO en termes de charge que 2023. On fera pas mieux que 2023, très certainement, sur la quantité de projets et sur ce qu'on va réussir à faire en cross-réalité. Mais c'est OK. La tendance, pour nous en tout cas, on s'est tapé dans la main, en tout cas avec les investissements qu'on allait faire et tout ça, sur le fait que ça allait être comme ça pour 2024, sûrement 2025 aussi. Et on commence à préparer 2026.
Oui, et puis comme disait Frédéric tout à l'heure, c'est un investissement aussi de développement de briques qu'on a rendu robustes, qui ont été éprouvées, et on peut pas s'amuser nous à réinventer nos briques techno. Déjà, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Mais on peut pas s'amuser à réinventer chaque brique techno dès qu'il y a un nouveau casque qui sort, dès qu'il y a une API qui change. Donc en fait, on va avoir une évolution qui va pas être forcément suivre les mêmes cycles que les cycles technologiques du CES ou voilà. Par contre, nous, on va les intégrer, on va intégrer ces changements bien sûr dans nos projections, mais ça prend un peu de temps.
Est-ce que justement, vous pensez pas que la durée de phase de capitalisation des usages en réalité virtuelle et augmentée, enfin au mix, est assez longue finalement? Justement, au regard de ces 10 années, finalement, on a une technologie qui a évolué hein, en termes de. Et puis bon, il y a eu des tas de changements aussi logiciels, mais là, je parle de la phase de capitalisation des usages, c'est-à-dire la phase pendant laquelle un certain type d'utilisateur commence à appréhender l'usage comme étant confortable, comme étant nécessaire, comme étant comme dégageant du ROI, etc., etc. Cette phase, elle est plutôt lente à se mettre en place. Il faut lui laisser le temps avant de passer à autre chose, on va dire, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en... Enfin, je sais pas, je lance la question.
Ben, j'avais débattu avec quelqu'un de très intéressant au VR Jam. Je dis pas ça parce qu'il est dans la salle. Bon, peut-être un peu. Il avait dit cette phrase qui est très juste. La différence entre un casque VR et un téléphone, c'est que le casque VR, on rentre à la maison, on le pose sur une table et on le laisse là. Le téléphone, on l'a toujours dans la main. Et ce qu'on disait à ce moment-là, enfin ce qu'il disait à ce moment-là, c'est que l'Apple Vision Pro allait peut-être changer les choses. On verra si c'est le cas ou pas. Hein. On en parle après. Toujours est-il que il y a sur les 10 ans dont on parle, il y a quand même eu une phase qui était extrêmement lente d'un point de vue constructeur pour que les casques soient accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, avec Meta, c'est plus trop le cas. Donc, mais le Quest 1, il date d'il y a pas si longtemps. Enfin, je l'ai à la maison. Ça fait combien de temps que j'ai acheté? 3-4 ans.
Oui.
C'était il y a pas si longtemps.
Ouais, 5 ans. Ouais.
Donc,
ouais.
Au final, quelle date de départ on prend par rapport à cette analyse? Est-ce qu'on le prend il y a 10 ans ou là, oui, en effet, c'était vraiment de la niche, ou est-ce qu'on la prend par rapport à il y a 4 ans? Eh ben, franchement, si on la prend par rapport à il y a 4 ans, les usages sont quand même bien démocratisés. Peut-être oui. Pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. Mais ça a commencé à devenir quelque chose de pertinent et d'intéressant, que ce soit pour le grand public ou les industriels. On parlait de cas industriels tout à l'heure, on parle de revue de conception, on parle de marketing, mais franchement, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, avec la réalité mixte, on commence à faire des jumeaux numériques d'outillage qu'on vient manipuler comme dans la réalité. Et ça, pour de la formation, malheureusement, Frédéric n'est plus là pour en parler avec nous, mais ça va être des usages qui sont absolument fous. On n'est plus obligé d'avoir des manettes de casque dans la main pour manipuler des choses. On peut vraiment industrialiser la solution. Et ça, c'est quelque chose qu'avant, on n'avait pas. Et ça, on le fait depuis quoi? Allez, on peut le faire depuis 2 ans, à tout casser.
Ok, bah, merci. Bon, à moins que vous ayez encore des choses à rajouter sur cette thématique.
Si vous voulez
bon,
en dire.
Juste en une phrase, jusqu'à maintenant, pour nous, la limite était surtout hardware, avant tout. Et je me souviens avoir fait des démos sur Oculus Rift DK1, ça piquait les yeux et ça faisait vraiment... Là, on était sur un motion sickness de à peu près 90%. Quoi. Donc, la limite était hardware. De plus en plus, ça se démocratise. Et ça va mieux, quoi. L'expérience est plus fluide.
Et puis, s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut se reposer, c'est les interactions avec l'environnement, puisque tu l'as très justement dit, des interactions naturelles. Et ça, c'est quelque chose que le téléphone ne permettait pas. Moi, j'avais fait ma thèse notamment sur les interactions aussi 2D sur les smartphones à l'époque où l'iPhone sortait. Est-ce que ça allait changer la donne? Est-ce qu'on allait remplacer les ordinateurs classiques par des environnements entièrement tactiles? C'était des questions qu'on se posait. D'ailleurs, on se repose à peu près les mêmes questions avec l'informatique spatiale. Peut-être ça t'ouvre la piste pour la question suivante. Mais au final, on se rend compte que l'interaction qu'on fait avec les environnements virtuels vont permettre de plus en plus des interactions dites naturelles, c'est-à-dire celles de l'appréhension des objets, celle du contact, celle de l'appréhension de l'espace 3D de manière générale. Et ça, c'est un acquis qui est fort sur lequel on peut se reposer, nous, concepteurs et développeurs. Et donc, il y a des choses qui ont avancé tout de même.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez convenu aussi de dire dans la préparation que le futur, c'est pas la VR. C'est véritablement la réalité mixte. C'est cette dimension, ce rapport au réel qui se fera de plus en plus prégnant et important. On n'est pas sur un enfermement dans le monde purement virtuel, on est sur une interaction permanente avec le réel. Hein, c'est ce que vous aviez convenu, je crois.
Avant le Quest 3, enfin, il y a quelques devices qui font ça aujourd'hui. Il y a le Pico. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais c'est vrai que leur mix, elle est pas dingue. Il y a le Vario qui est absolument fou, mais c'est un casque qui vaut 10 000 euros. Et avant, vraiment, c'était le seul sur le marché, à mon sens, qui était suffisamment industriel pour faire de la réalité mixte. Et là, on nous sort un casque à 500 euros qui le fait, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc oui, ça fait déjà un gros changement.
Ouais. Pour conclure, qu'est-ce que vous pensez, mais on va aller un peu plus loin que ça, de ce Apple Pro, vraiment pour faire très vulgarisant comme discours, moi si je me mets en tant qu'utilisateur lambda, mes réseaux sociaux sont bombardés de types qui font leurs courses avec, qui se baladent dans la rue avec l'Apple Pro, on veut vraiment m'inculquer cette idée fondamentale que c'est absolument indispensable d'avoir ce truc. Par ailleurs, ceux que j'ai approchés qui l'ont essayé, c'est qualité du tracking exceptionnelle, etc. Qualité visuelle aussi, mais confort improbable. Et puis, complètement scellé, siloté au système Apple, comme jamais, en fait. On est complètement enfermé là-dedans. Quelle est votre opinion?
Allez, je me lance, sans parachute. Alors, c'est que mon avis, hein. Je pense qu'on est sur le même paradigme que l'iPhone 1, globalement. C'est-à-dire qu'on est sur une technologie qui, je pense, va changer la donne, mais pas aujourd'hui. Ils ont commencé, ça fait des années, qu'ils préparent les graines de ce genre de technologie. Il va falloir quelques versions avant que ce soit stabilisé, adopté du grand public. Je ne parle même pas de baisse de prix, hein, parce que c'est Apple et on sait que ça n'arrivera peut-être pas, peut-être ça va même augmenter. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra le Vision Pro, peut-être 3, si je devais faire un pari, si je devais mouiller pour avoir un plus gros déjà écosystème applicatif, parce qu'il y a finalement peu d'applis. Ils ont lancé pas mal de programmes, hein, si vous les avez suivis, peut-être si vous avez postulé et tout ça, pour créer du contenu applicatif, mais c'est pas encore ça. Il y a les choses, par contre, ça marche bien, techniquement. Pareil, hein, je ne l'ai pas encore testé. Juste un petit aparté, vous avez le Swift Meetup qui vous permet, à la prochaine session, vous pouvez aller voir sur Meetup, de pouvoir tester le Vision Pro si vous voulez l'essayer. Donc, regardez si ça peut vous intéresser pour votre culture pro ou perso. Et en tout cas, voilà. Pour moi, le pari, c'est que ça va changer la donne, mais pas tout de suite.
Oui, alors je partage cet avis, hein. C'est effectivement on connaît Apple, et puis d'ailleurs aujourd'hui c'est presque un standard, hein, de sortir un premier produit qui n'est pas tout à fait abouti pas d'utiliser, mais en tout cas de faire participer la communauté, les utilisateurs pour améliorer le produit et être le premier à sortir et à créer des nouveaux standards. D'ailleurs, Apple arrive sur le marché avec à coup de grands slogans et de matraquage un petit peu sur des grands concepts comme celui par exemple de l'informatique spatiale. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire l'informatique spatiale? Nous quand on est devant notre ordinateur, on est bien confortable avec avec notre souris. Je sais pas si on arrive à se projeter à savoir ce que ça peut signifier d'avoir des écrans supplémentaires, de d'avoir des tableaux de bord entiers pour travailler. Enfin déjà avec deux écrans, moi quand j'en ai un troisième, je mets ma musique et voilà, je mets Spotify sur le troisième et déjà j'ai un peu de mal. Donc si j'en ai cinq ou six, je sais pas. Mais par contre, on va pouvoir se projeter. Quand on a vu quelques use cases, quelques exemples où on va pouvoir se créer des environnements virtuels chez soi, les retrouver. C'est-à-dire quand on remet le casque, on va pouvoir retrouver des objets avec lesquels on va interagir, des écrans, des recettes de cuisine dans la cuisine. Enfin voilà, on va pouvoir s'aménager une seconde réalité, une virtualité qui va venir fusionner un petit peu avec notre quotidien. Et j'ouvre un petit peu l'aspect, on va dire, pas philosophique, mais de cette fusion entre la réalité et la virtualité, qui est un peu la promesse initiale de la VR. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on a un casque assez imposant, avec une batterie assez lourde dans la poche, avec aussi les glitches graphiques qu'on va retrouver quand on va voir à travers un cifrou, aussi bien fait soit-il que celui d'Apple, on est quelque part un petit peu dans la matrice. Donc, mais quelque part, voilà, on sent que ça marque, et je suis d'accord avec toi, ça marque en tout cas une étape supplémentaire dans la direction de cette promesse initiale de fusionner cette réalité, cette virtualité qui n'est pas encore le cas. On peut pas aujourd'hui avec le Vision Pro garantir que ça ouvre une révolution. La révolution, elle est plus dans le principe même justement de la réalité augmentée, la réalité étendue. La réalité étendue est une révolution en soi, un petit peu comme l'est l'intelligence artificielle. Mais maintenant, sur le Vision Pro, on marque une étape parce que on sent qu'il y a eu tous les efforts investis et puis des budgets colossaux qui ont été investis pour une techno qui est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Est-ce que ça va vraiment marquer une révolution? Je pense que ça peut dynamiser le marché, ça c'est évident. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui. Il y a cette table ronde, nous on voit ça de manière très optimiste et très positive. Maintenant, est-ce que ça va marquer une révolution? Voilà, elle est en cours la révolution. C'est pas le Vision Pro qui va. Voilà.
De mon côté, alors j'aurais pas d'avis sur le casque parce que franchement, je veux essayer avant d'en dire quoi que ce soit. On voit tout sur Internet et aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à me rendre compte de ce que ça peut rendre. Donc j'irai sûrement voir ce que ça donne. Par contre, ce que je trouve très intéressant et ce qu'on n'a pas tant évoqué que ça, c'est que ça veut quand même dire qu'un des plus gros acteurs du marché aujourd'hui dans l'informatique s'est lancé dans la VR. Et la MR. Et ça, c'est quand même pas anodin. Ça veut dire que eux, ils ont mis des billes là-dedans et c'est pas des petites billes parce que pour développer un device pareil, peu importe le device d'ailleurs et la qualité du device d'ailleurs, il faut mettre beaucoup d'argent. Et là, ça veut dire que Apple a énormément investi sur ce sujet-là et donc ça annoncerait de beaux jours pour cette technologie. Après, la VR, ça reste un marché qui est assez instable. Il y a des en parallèle, alors je sais plus qui c'était, c'est Meta qui a retiré des billes dans la XR. J'avais lu un article comme ça. Donc voilà, d'un côté on avance, de l'autre ça recule un petit peu, donc on sait pas trop où on va. Mais en tout cas, oui, le fait qu'Apple se lance là-dedans, c'est un marqueur fort. Et après, le device, on verra.
Oui, et puis faut pas oublier qu'on a vécu aussi. D'ailleurs, on n'a pas abordé une seule fois aujourd'hui, on n'a pas énoncé ce mot et une seule fois. C'est le métaverse. On l'a complètement.
Ça existe encore, ça.
Voilà. Donc je pense qu'il y a eu aussi ce passage-là qui a été un peu compliqué où on s'est posé la question. Mais à quoi ça va nous servir un métaverse? C'est quoi? On n'a même jamais su vraiment répondre à cette question-là. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? Donc je pense qu'on reprend un peu les bases de manière un peu plus pragmatique. On revient à la technologie, on revient aux promesses initiales et on se repose les questions avec les usages. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est robuste? Qu'est-ce qui est éprouvé chez nos clients? Et nous, en tout cas, on continue notre bonhomme de chemin avec cette philosophie-là.
Et aussi d'un point de vue texte, ce qui est vachement intéressant. Et Zuck prend le défi. Je pense que ça va tirer la techno vers le haut d'avoir Meta, Apple, les deux qui veulent défendre leur bout. La concurrence n'a jamais eu de mal, au contraire, pour ce genre de choses. Donc, Meta, tu disais les investissements d'Apple, mais Meta a renommé sa maison mère Meta et a mis toutes ses billes à un moment où Facebook se cassait la gueule. Enfin, je sais pas, casse toujours la gueule, mais. Pour justement essayer de se refaire. Donc, je ne sais pas si c'est une révolution, mais là, c'est la période des semis de tomates, donc on a mis les graines et on va voir. Bah, ça mettra quelques années, ça ne sera pas en quelques mois, mais je pense qu'on verra dans quelques années. Là où, par contre, l'IA, je pense que ça commence à germer très, très fort et ça fait des boutures dans tous les sens.
Je voudrais rebondir sur plusieurs choses. Donc déjà, sur l'Apple Vision Pro, je pense que si révolution il y a, c'est une révolution marketing, déjà. Parce que vous avez tous eu des gens autour de vous qui ne vous ont jamais parlé de VR et qui vous ont dit, tiens, Apple, t'as vu, lance un casque VR, parce qu'ils savent que vous vous intéressez à la VR. Donc déjà, je pense que c'est un marqueur extrêmement fort. Et je rejoins ce qui a été dit. Ce casque est probablement un proto. En revanche, il va tirer toute l'industrie vers le haut. C'est pas pour rien que Meta est en train de dire qu'il va revoir toute son architecture UI, parce que ils savent très bien qu'en face, Apple le fait extrêmement bien, donc tant mieux qu'il se soit pris cette, on va dire, baffe de ce côté-là. C'est pas pour rien que Samsung a reculé un peu sa sortie de son casque, parce qu'ils veulent être un peu plus en frontal, que Pico a fait exactement la même chose. Donc ça va tirer l'industrie vers le haut, ça c'est sûr. Après, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est un peu comme l'iPhone 1, etc. En revanche, pour faire le parallèle avec ce qui a été dit avant, la brique qui manquait, c'était le retour d'expérience utilisateur et l'intuitivité. Tout à l'heure, on parlait de smartphone, mais vous montez une appli sur un smartphone, vous êtes soit Android, soit sur iOS, et puis après, quand la personne elle sort son téléphone, elle appuie sur une touche, et l'appli, elle part. Aujourd'hui, essayer de créer cette facilité d'usage en VR, c'est très complexe. Et c'est pour ça qu'il y a plein de briques qu'il faut mettre en place. Et c'est pour ça que je présentais tout à l'heure en disant InnoVR, on n'est pas que des revendeurs, c'est parce qu'on est des facilitateurs et des intégrateurs. Et c'est un vrai métier de dire à quelqu'un, un chef de projet VR qui dit « Moi, j'ai un projet, j'aimerais bien monter dans ma boîte, etc. » Oui, mais dans ta boîte, il y a une DSI. Dans ta boîte, il y a quelqu'un qui va regarder si les données sont chiffrées ou pas chiffrées. Quelqu'un qui va dire « Moi, je suis un formateur, comme il disait tout à l'heure, j'ai pas envie d'utiliser ça. » Donc, je pense qu'il faut attendre de la suite, c'est un standard où on pourra dire ok, bon, ben moi je veux monter quelque chose, je vais le faire comme ça, il y a tel usage qui est facile à monter. Et je crois, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, que le hardware sera pas le facteur limitant et ne l'est plus. Le facteur limitant, c'est dire comment je fais pour développer ma solution et la diriger à telle personne, que telle personne l'utilise, etc. Et là aussi, on progresse. Donc, ça pour à la suite, c'est bien. Et ce que va amener Apple là-dedans, c'est le pouvoir marketing, le fait que tout le monde va se battre pour essayer d'être a priori à niveau, et ça va faire du bien, je pense, à toute l'industrie. Moi je partage pas trop le pessimisme, enfin pas le pessimisme, mais le de notre côté, en tout cas moi, côté casquette revendeur et fournisseur, ça freine pas, et il y a beaucoup plus de gens qui maintenant qu'avant qui s'intéressent au cas d'usage. Et l'avantage, c'est que maintenant c'est beaucoup plus facile de répondre à ces gens là en termes d'intuitivité. Voilà, l'exemple de tout à l'heure que tu disais dans l'avion, je prends mon PC, je prends mon truc, c'est plus le cas maintenant. On fait des valises, on fait plein de choses qu'ils sont capables de. Donc, moi, pour la suite, je suis très positif.
Au final, ça va un petit peu rejoindre ce que tu disais, parce qu'en fait, moi, c'était la question, parce que tout à l'heure, quand tu disais oui, les formateurs n'ont pas vraiment envie d'utiliser la VR, etc. Moi, en gros, la question, bon, après, c'est pour vous, mais finalement, en fait, c'était pour lui qui est parti, dommage. C'était sur la partie, est-ce que c'est pas la faute à la médiocrité du contenu VR en grosse majorité, où au final il y a pas mal d'applications qui commencent à sortir, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont fait plein d'applis VR full 360, où en fait pas d'interaction, juste 4 quiz, et ça y est, on a fait une formation, on vous l'a vendu 150 000 euros, et maintenant débrouillez-vous avec, si vous n'arrivez pas à former, c'est pas grave, voilà. Et donc en gros, est-ce que les formateurs n'ont pas été déçus de ces applications là et donc forcément n'ont pas envie de remettre des billes dans la perte finalement d'une prochaine application, parce qu'il y a des développeurs qui se sont gavés à faire n'importe quoi.
Ah, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je pense que c'est avant tout en partie sur le phénomène de rejet qu'il peut y avoir de la part des utilisateurs lorsque toutes les bonnes pratiques, et quand la technologie ne suit pas, les bonnes pratiques ne suivent pas, que ce soit un effet de cinétose, un mal de mer généré par le casque, que ce soit une interaction où on va mettre 5 minutes à interagir avec un bouton. Mais c'est normal. Enfin, on est les premiers. Quand on doit cliquer 3 fois sur un bouton sur son smartphone avant d'obtenir ce que l'on veut, à râler. Donc, on ne peut pas en vouloir ni aux utilisateurs ni à nos clients. Par contre, c'est notre rôle, effectivement, de nous assurer effectivement de la facilité d'usage de ces outils.
Côté réalité augmentée, c'est toujours été décevant, les expectations versus reality, quoi. Enfin, il y a toujours des belles images, vous prenez tous les PTC, les machins, avec des mecs qui cliquent en l'air, machin, sauf qu'on enfile l'HoloLens, bah ça marche pas, quoi. Et où l'image est un peu floue, bah oui, mais c'est pas la bonne condition de lumière et tout ça. Et ça, peut-être là, avec le Vision Pro, pareil, j'ai pas testé, j'ai juste vu des vidéos sur YouTube comme tout le monde. Peut-être le expectation versus reality va peut-être un petit peu se réduire à 4000 balles. Moi.
Moi, je suis un petit peu de cet avis à propos de l'Apple Vision Pro. Comme on l'a pas testé, c'est toujours difficile de se prononcer, mais je suis par contre, je suis pas Apple addict, mais en tout cas de toutes les sorties qu'ils ont pu faire sur le marché, il y a un truc où ils excellent, c'est le design. Et là-dessus, on peut vraiment leur faire confiance. Quand ils ont sorti l'iPhone, quand ils ont sorti l'iPad, l'iMac, bon, on va pas tous les citer, leur force, c'est le design. Et donc, du coup, tous les tiers développeurs, ils doivent suivre leurs guidelines. C'est eux qui ont inventé, en fait, les Apple Design Guidelines. Ça viennent à la base d'eux avant que les Google Guidelines arrivent. Donc, en fait, le design, le beau, ça fait vendre. Il faut pas l'oublier, ça. Et donc, tout le design Apple, il faut faire confiance à ça. Il faut faire également confiance à tout l'écosystème qu'ils arrivent à générer, drainer autour d'eux. Ça veut dire des grands développeurs, des grands designers qui participent et qui co-construisent en fait la croissance de ce device. Et en fait, ça participe également grandement à l'usage. Quand c'est beau, quand c'est bien fait, quand c'est ergonomique, je rebondis sur ce que vous disiez, Rudy, et qu'on rencontre tous en tant que développeur et designer, l'usage, l'UX, comment ça se fait qu'on a du mal à appuyer sur ce satané bouton? Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas qu'il est uniquement mal fait, c'est parce que aussi on étudie, on réfléchit, et qu'à un moment donné, peut-être que Apple, avec tous ces grands penseurs qu'ils peuvent avoir intégrés dans leur entreprise, ils ont peut-être aussi des bonnes connaissances là-dedans qui vont nous enseigner, en fait. Et on va pouvoir un petit peu étudier et scaler à ce système-là. Ok, repenser encore une fois au smartphone, les applications, le côté icône. C'est eux qui l'ont inventé. Bon, alors, je dis pas que c'est eux qui vont réussir dans ce marché-là, mais bon, je trouve que c'est de bon augure. Voilà.
Je sais pas s'ils ont inventé, mais en tout cas, ils ont eu cette capacité à créer des standards. Et on l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui va faciliter, qui va démocratiser l'usage de ces technos.
Il y a quand même quelque chose qui, enfin, un aspect assez intéressant, mais qu'ils ont totalement oublié et qui est vraiment un peu, peut-être, complexe, c'est, ils sont partis donc sur le spatial computing, donc c'est chouette, hein, on fout des fenêtres partout. Quand même, la réalité, c'est que, dans la vraie vie, on n'a pas tant de fenêtres que ça, on a des objets, et on les attrape, les objets, et on a de la 3D. Et en fait, quand on voit finalement un peu la base du Vision Pro là-dessus, j'espère qu'ils vont vite corriger le tir, mais c'est de se dire, en fait, il faut de la 3D, quoi. Enfin, sinon, ça sert à quoi d'avoir des vieilles fenêtres 2D, quoi. Enfin, il y a plein de choses, avec tout le design qu'ils vont mettre, etc., il n'y a pas de souci. Mais en fait, la VR ou la XR maintenant, c'est de la 3D. C'est des choses où on veut pouvoir faire des trucs qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Tout le monde veut faire des portails pour voir plus loin, etc. Et en fait, le truc, c'est que là, pour le moment, on a des fenêtres, quoi. Et en fait, pour revenir du coup sur ma question tout à l'heure, c'est pareil, en fait. Pendant combien d'années Les interactions principales qui ont été faites, c'était tutoriel en 2D, machin en 2D, et en fait, les développeurs en fait se creusaient pas la tête. Suis le tutoriel. Ah ouais, mais c'est chiant à lire. Ouais, ben suis le tutoriel. Oui, mais peut-être que en fait, est-ce que c'est pas à nous, peut-être soit Overjam ou n'importe où, de commencer en fait mettre des nouvelles guidelines aussi, qu'on peut le faire Vision Pro ou autre, mais sur la partie développeur, aller plus loin. Voilà.
Verjam, c'est vous. Donc, c'est ce que tu disais. Voilà, c'est ça. On va terminer là. Merci à vous tous. Vraiment un grand merci pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous allons bientôt nous retrouver pour une autre édition à Toulouse, mais aussi à Montpellier, aussi probablement à Perpignan. On va essayer de faire ça cette année, voilà, pour essayer d'essayer un peu partout. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ces villes-là qui font aussi de la XR et de la VR. Très bonne soirée à tous et à bientôt.
Cet épisode vous a été proposé par Lamellé Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellé.com. Ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine By La Mêlée et la cantine Toulouse.